Depuis que je suis avec ce chien, je suis stupéfait par l'intelligence. Si on va en auto, je lui dis, il veut rester devant avec moi. Je lui dis, derrière, hop, il passe derrière. C'est un mot que je ne lui ai jamais appris.
CO2, mon amour.
Je lui dis, va sur la commode. Je ne lui ai jamais appris, va sur la commode. Moi, ma femme prétend que le chat est plus intelligent. Plus... Moi, je ne suis pas de cet avis. J'appelle le chat, il ne vient pas.
Denis Chessou.
Le chien vient, c'est moins con.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement. C'est au de mon amour parce qu'on n'attend pas le changement mais que nous sommes le changement. Avec à la technique aujourd'hui Gilles Gaillard et Philippe Duclos et assisté de Claire Destacan, sans oublier Albert Hook, c'est Xavier Pessugia, Xavier qui réalise l'émission. Alors, une petite humeur, vous savez, c'est un peu le rituel de ses vœux pour la nouvelle année. C'est comme les bonnes résolutions. La résolution est en marche, mais dès le mois de février, en général, ça se calme un petit peu. Tenez, par exemple, on s'engage à ne plus reprendre de pesticides avec ces OGM. Et puis, allez savoir pourquoi, on retombe toujours dans les travers habituels. On finit toujours par ajouter un chouïa d'atrazine à son maïs transgénique. Hein, bah oui, c'est comme ça. C'est un peu comme les régimes, hein, si vous voulez. En gros, on les commence et puis après, c'est jamais très très simple. Mais non. On est actif et on a envie que ça bouge. Bref, en ce début janvier, que pourrait-on souhaiter à notre petite planète et à son locataire le plus turbulent ? Eh bien, précisément que le locataire, ça s'agisse parce que sinon, à la restitution des lieux, il ne récupérera pas forcément son dépôt de garantie. Ah, et puis la chaleur, qu'est-ce que l'on peut souhaiter ? Ah bah oui, parce que si je suis un ours... Hein, si je suis grognon, car perturbé. À cette heure-ci, je devrais être déjà sous ma couette et hiverner dans ma tente. Je devrais roupiller tranquille dans mes Pyrénées. Bon, jamais totalement, contrairement à la marmotte qui, elle, ferme tout. Les fenêtres, les écoutilles, les tuyaux, au fond de son terrier, mais qui se réveillera perturbé fin mars, la marmotte, car elle n'aura plus Delpech, Boulez, Galabru, Julien Lepers à la télé. Elle pourra quand même réécouter de temps en temps, je vous le dis, Jean-Marie Pell, comme ça, un petit peu en pointillé. Mais il fait trop chaud pour un ours. Les glaciers n'existent quasiment plus dans les Pyrénées. Je vais quand même pas installer la clim dans ma tanière, non. Et alors, heureusement, pour inverser la tendance, alors vous avez par exemple le très bon site Reporter du magazine de l'écologie, mais des initiatives, on en parle, Philippe Bertrand aussi, enfin tout le monde en parle, et tant mieux sur l'environnement. Donc vous avez de véritables oasis d'inventivité dans un monde qui a l'air de vouloir remplacer l'oxygène que l'on respire par l'anxiogène que l'on transpire. Et donc un petit peu partout, les initiatives, on le sait, se multiplient, tant il est vrai que le changement se décrète pas, hein, il se met naturellement en marche, pour peu que les mentalités s'y soient préparées. Alors ici, ce sont des chantiers participatifs, on remonte des murs en paille et en terre crue, et l'assurance que l'on sera prochainement aidé à son tour par ce voisin à qui on vient de filer un coup de main. C'est l'entraide qui permet à ces ménages modestes dans le parc naturel du Cotentin et du Bessin de pouvoir rénover leur logement avec l'aide de la Fondation de France et d'oublier la précarité énergétique qui ruinait leur budget. Voilà, donc entraide qui devient le principal moteur des projets et artisan d'un réel mieux vivre. Et puis, plus au loin, au sud, ce sont des jardins potagers que l'on peut connaître, qui sont cultivés juste en bas des cages d'escalier par les habitants du quartier. Donc un moyen pratique de consommer pour un coût modique les fameux 5 fruits et légumes quotidiens sans que le bilan carbone de la barquette de fraises n'atteigne les valeurs à faire fondre la calotte polaire. Eh ben non, donc la surenchère en matière de destruction tous azimuts n'est pas une fatalité en ce début d'année. Au contraire, tous les ingrédients sont là pour préparer une autre tambouille, une cuisine innovante, épicée de solidarité, laissant s'échapper de la casserole de belles senteurs de collectif. Bon, évidemment, vous me direz, face au rouleau compresseur de l'individualisme, qui oublie la coopération, le mutualisme, qui pourtant sont plus importants que le tri naturel, eh ben, ces formes de citoyenneté peuvent apparaître encore un petit peu faibles. Mais rappelez-vous, à la fin de l'histoire, le vainqueur, hein, on avait un frêle David là, qui était taillé dans un bâton de sucette, et puis il y avait Goliath qui était bien costaud. Qui c'est qui a gagné, hein, qui c'est ? On vous souhaite le meilleur, on vous souhaite une très belle année sereine. On n'en dit pas plus parce qu'on l'avait souhaité aussi en 2015 et collectivement on a vu bien sûr ce que cela avait donné. Alors, tenez, on va se tourner vers un homme que vous connaissez bien, qui est Pierre Rabhi. Bonjour cher Pierre Rabhi. On va débuter l'année avec vous, avec peut-être d'abord évidemment quelques mots parce que c'était votre ami donc Jean-Marie Pelt qui est mort entre le solstice d'hiver et la nativité. Vous aviez écrit avec lui Le monde a-t-il un sens, et donc le sacré du vivant, eh bien vous l'aviez en commun, Pierre.
Bonjour Denis. Oui, absolument. C'est-à-dire que moi j'ai connu Jean-Marie évidemment à travers ses ouvrages et graduellement, pas immédiatement. Je suis fait partie du scientifique pour finalement découvrir à travers le scientifique l'homme du sacré, l'homme qui ajoute une dimension sacrée à la réalité que je n'avais pas forcément au départ.
Alors s'il vous plaît, maintenant, quelques vœux pour cette planète dans ce carrousel un peu de l'absurde que vous dépeignez, alors aussi bien avec Vers la sobriété heureuse, hein, qui est un, comme on dit, un best-seller absolument incroyable, ce qui prouve bien que les gens ont besoin de sens. Quels sont les vœux pour la planète que vous formulez aujourd'hui?
Ben, je pense qu'il faut que l'humanité évolue. Si l'humanité n'évolue pas, je pense pas à la planète, je pense surtout aux êtres humains qui sont là depuis... quand on fait une évaluation temporelle, on dit que nous sommes présents dans cette réalité planétaire depuis à peu près 1 minute et demie à 2 minutes. Mmh. Alors on peut se dire, disons logiquement, que jusque-là, la planète n'a pas eu besoin de nous. Et qu'il n'y a aucune raison qu'elle continue à avoir besoin de nous. Je dirais même, si je la personnalise, elle devrait avoir hâte que nous disparissions parce que nous commettons énormément de dégâts sur cette réalité vivante.
Alors Pierre Rabhi, aujourd'hui, lorsque vous parlez d'indignation constructive, qu'est-ce que c'est pour vous?
L'indignation constructive, c'est de comprendre que nous sommes vivants et que c'est un miracle, que nous avons une planète absolument splendide qui offre absolument tout pour que nous soyons heureux, et que là, sur cette planète, on a beaucoup plus instauré la dualité et la violence qu'instaurer l'amour. Alors je reste très fidèle à ce type qu'on appelait Jésus et qui a insisté énormément sur le fait que la puissance infinie, c'est celle de l'amour. Et on est loin du compte, et au lieu de voir petit à petit, on est allé vers une vision de notre planète qui est gisement de ressources, qu'il faut épuiser jusqu'au dernier végétal, jusqu'au dernier animal, jusqu'au dernier poisson, etc. Mmh. Donc cette posture, si vous voulez, prédatrice qui est advenue, est une posture qui se fait évidemment sous les règles de la croissance économique, par exemple. Au lieu de mettre l'humain et la nature au cœur de nos préoccupations et d'organiser le monde sur ces critères-là, on a mis le profit, la croissance économique et toutes ces balivernes. Du coup, l'être humain est devenu pillard des biens qui lui sont absolument indispensables. Par exemple, il s'est tellement éloigné en quelque sorte d'une réalité que l'autre jour, il y a une journaliste qui est venue me voir parce qu'elle fait un travail et une enquête sur l'eau. Je lui dis, mais madame, vous êtes de l'eau et je suis de l'eau.
Oui.
Et elle dit, ah oui, on n'y pense pas. Oui, nous sommes bien de la flotte. Je ne sais pas d'où est venu ce clivage où l'être humain s'est octroyé un statut seigneurial qui serait le patron et le dominateur de tout. Et là est l'erreur, parce qu'en fait, est-ce que nous sommes nés pour nous combattre, nous entretuer? Dieu sait qu'il suffit d'ouvrir la radio pour avoir des témoignages aussi terrifiants et horribles qu'ils soient. Ou est-ce que nous sommes nés pour justement cette sorte de bonheur profond qui fait que nous sommes vivants, qui fait que la vie est belle? Même l'écologie politique, eh bien malheureusement, elle occulte le fait qu'il ne s'agit pas simplement de critères physiques ou je ne sais quel critère de classer dans les éléments scientifiques, mais que nous sommes des êtres d'admiration, nous sommes des êtres qui devons admirer la vie, pas seulement. Et toute cette question d'admiration, de mystère de la vie sont occultées parce qu'il faut avoir un regard écologiste qui ne soit pas entaché de quoi que ce soit, de subjectif, etc.
Alors ce que je vous propose, Pierre, c'est de vous retrouver en fin d'émission. Moi, je rappelle que vous aviez donc écrit L'agroécologie, une éthique de vie avec Jacques Caplat, et puis bien sûr Vers la sobriété heureuse, plus de 250 000 exemplaires quand même, en poche aux éditions donc Babel. Je me tourne vers Frédéric Danhué. Bonjour, cher Frédéric.
Bonjour, Denis Chessou.
Bon, c'est bien, nous avons notre quota de ch'tis, donc parce que nous aussi, on doit respecter... Je plaisante, non, mais ne m'écrivez pas pour m'engueuler dans cette... Non, c'est... Voilà. C'est de quel coin? Toujours, rappelez-nous.
De Caudry, la ville de la dentelle.
C'est bien. Alors, Frédéric, vous intervenez régulièrement dans cette émission et nous traitons l'actualité. On va commencer par cette marche, évidemment, qui se passe du côté de Nantes, Notre-Dame-des-Landes, qui n'est pas exactement une affaire, on le rappelle juste rapidement, toute neuve, Notre-Dame-des-Landes.
Et non, le projet est sorti des têtes pensantes ministérielles en 1963. Il a été inscrit dans les plans d'urbanisme locaux en 1974. Ça fait donc 41 ans que ça dure. À partir de l'inscription dans les plans d'urbanisme, on est 40 ans après. Il a fallu 40 ans. Mais le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde d'il y a 40 ans. Ouais. À l'époque, on réfléchissait différemment. Aujourd'hui, le monde n'accepte plus, 40 ans après, ce type de projet. Et c'est d'autant plus étrange qu'en 40 ans, la nature a eu le temps, comme on dit toujours, de reprendre ses droits. Donc, parce qu'on a préempté un terrain pour en faire un aéroport, on a eu nul droit d'y faire quoi que ce soit. Mmh. Du coup, le bocage s'est installé, une agriculture extensive s'est installée. Et aujourd'hui, on vient dire aux gens qu'il faut supprimer tout ça. Voilà, c'est juste la conjonction de deux époques. Le projet est né à une époque, il est arrivé à une autre époque.
Avec une évolution de la société plus environnementaliste.
Plus environnementaliste. Aujourd'hui. Et puis...
transport aérien quand même aussi.
Alors, transport aérien, le transport aérien.
Parce que c'est très COP21, on va le dire.
Eh ben non, c'est pas COP21. Vous savez, on en a parlé dans cette émission. Oui. Le transport aérien réussit à se faire désinscrire de la COP21, alors qu'on sait qu'à l'horizon 2040-2050, le transport aérien sera un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Mais sans même parler de ça, Denis, on considère qu'il faut un nouvel aéroport parce que le transport aérien ne peut qu'augmenter, parce qu'il a toujours augmenté. Mmh. C'est la pensée magique. On sait très bien qu'un jour ou l'autre, le pétrole redevient cher. On sait très bien, et les économistes les plus libéraux le réclament, qu'un jour ou l'autre, la tonne de CO2 sera à 120 euros. C'est le tarif qu'il faudrait pour faire avancer les choses. À 120 euros, il n'y a plus grand monde qui pourra prendre un billet pour aller en vacances à Hurghada.
Peut-être qu'il n'y aura pas de taxe carbone, comme il n'y a pas de taxe sur le kérosène.
Ça, je ne suis pas sûr. À mon avis, en droit, parce que même les industriels la réclament, et en particulier les assurances. Mais surtout, cet aéroport, tout le monde le dit, ne sert à rien. Oui. Alors qu'on a un aéroport à Nantes qui est sous-dimensionné, un aéroport à Nantes qui est sous-employé. Le côté amusant, je termine là-dessus, c'est que l'aérogare de l'aéroport sera plus petite que l'aérogare actuelle. Pourquoi ? Parce qu'il faut laisser de la place pour la zone commerciale.
Bien sûr, mais c'est quand même le plus important.
C'est le plus important.
C'est ça. On va poursuivre donc notre voyage avec de l'actualité. On va retrouver la voix de Galabru. On a des petites surprises, donc restez avec nous. Vous êtes bien sur France Inter en direct. D'autant plus que nous avons la grande Sophie.
Oui.
Dans le rétro, je regarde si je t'aperçois. Hanoï, Hanoï, je me souviens. Ton visage, ton parfum, tes ruelles aussi. Je te regarde passer, je suis chez toi. Hanoï, Hanoï, tu me retiens. Typhon pleure, terreau meurt, la pluie dégringole. Autour du lac, j'entends comme des bruits qui résonnent, des vagues de motos. Quelle est cette autre personne? Ton cœur qui klaxonne sous ton regard accroupi. Autour du lac, il y a comme un monde qui bouillonne. Devant moi, un tableau. Des amoureux se questionnent et ma voix chante. Je te reverrai. Dans la chaleur humide sur tes trottoirs. Hanoï, Hanoï, tu me fais voir. Ta vie dehors, tes couleurs aussi. Sous la jungle électrique, je perds mon chemin. tes marionnettes dans une autre vie. Autour du lac, j'entends comme des bruits qui résonnent, des vagues de motos. Quelle est cette autre personne? Je regarde si je t'aperçois, Hanaï, Hanaï, si loin de moi. Le velours, la fleur de lune, et moi à Paris. Hanaï, Hanaï.
Quel bonheur! Ce soleil! Cet air! Ce parfum! Ces collines, ces arbres, ces oiseaux, ces œufs à la coque!
France Inter, CO2 Mon Amour avec Denis Chessoux.
Ah, c'est Hippolyte la nature, tout ça, donc avec Frédéric Denré. L'actualité, donc 2016, on a bien vu, ça commence donc fort avec Notre-Dame-des-Landes. Les Bouts Rouges, alors les Bouts Rouges, société Alteo, traitement de la bauxite pour en extraire de l'alumine. Point commun avec Notre-Dame-des-Landes, c'est que c'est une telle affaire qui ne date pas d'hier non plus, Frédéric Denré.
1966, les plus vieux de nos auditeurs se souviendront de lire gigantesque du commandant Cousteau et de Alain Bombard contre des Bouts Rouges qui étaient déversés à l'époque à Livourne par une société italienne, et ça avait été ça avait permis une vraie prise de conscience sur l'état de la Méditerranée qui à l'époque était catastrophique. De fil en aiguille à Cassis, ça avait donné naissance pour les grâce aux pêcheurs au parc marin de la Côte Bleue qui existe toujours. Je termine la parenthèse. Donc c'est très polluant, c'est très très plein d'arsenic, de mercure, de titane, d'uranium 238 qui n'est pas extrêmement radioactif, mais ça reste quand même un isotope de l'uranium. Et donc la polémique aujourd'hui, c'est, alors jusqu'à présent, les déchets étaient balancés sous forme de boue rouge, c'est-à-dire 95% d'eau et 5% de déchets solides étaient déversés à 320 mètres de fond dans la fosse de Cassidaigne.
L'actualité, c'est effectivement un arbitrage qui était en défaveur de Ségolène Royal qui a même poussé le maximum le projet pour arrêter de déverser ces boues rouges. Donc elles vont continuer pendant encore 6 ans.
Alors sous une autre forme, c'est-à-dire que là, ces boues sont compactés, on garde le sec pour en faire éventuellement des matériaux de construction. Économie circulaire, hein, c'est d'ailleurs ce que défend et ce qui fait que François-Michel Lambert, le député Europe Écologie Les Verts du coin, c'est la raison pour laquelle il soutient cette autorisation d'émission. Et donc le liquide qui reste passe par une centrale d'épuration qui extrait la majeure partie des métaux lourds, et le reste est donc balancé dans le pipeline, hein, 7 km sous la mer, jusqu'à donc 320 mètres de fond. Alors les associations hurlent. Tout ça est trop manichéen pour être honnête. Dire que, alors effectivement, c'est toxique, on le sait. C'est évidemment toxique. Cela dit, à 320 mètres de fond,
Déjà plus rien là-bas.
Et il n'y a pas grand-chose de toute façon, ouais. À part, il est vrai, des madrépores. Hein, ce sont des coraux qu'on trouve habituellement dans les zones tropicales et que l'on trouve là. Donc c'est pas extrêmement toxique, et de dire que ça va polluer la Méditerranée, non, ce qui pollue la Méditerranée.
Alors là c'est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que bon, bien sûr qu'il s'agit pas de nier la toxicité de cette affaire-là,
personne
du tout, loin de là. Mais est-ce qu'on n'est pas devant donc une pollution qui cache une autre forêt de pollution?
Ah bah oui, là c'est le chiffon rouge qu'on agite derrière Alteo. Alteo, c'est comme si on voudrait lui faire payer une pollution rémanente qui est phénoménale devant Marseille, parce que tous les égouts ne sont pas entièrement reliés aux stations d'épuration, et puis c'est la pollution aux métaux lourds notamment, qui vient du Rhône.
Oui.
Donc que Alteo, si vous voulez, si on est
dans... Non mais ça on entend très peu parler.
Eh ben non, mais hein, c'est... Alors de dire que la Méditerranée est dans un état catastrophique, oui, c'est ça, plus c'est... vrai, ça va mieux,
ça
va nettement mieux, et on le voit bien, je suis plongeur, on le voit bien au retour d'espèces qui auparavant étaient rares. Comme le corbe par exemple, comme la posidonie, qui est maintenant, on en a souvent parlé, qui est revenu près des côtes. Et puis la pollution aux métaux lourds, aux pesticides, c'est pas Alteo, c'est une pollution globale. La Méditerranée est une des mers les plus polluées du monde parce que c'est une mer fermée, parce qu'elle est entourée par une densité de population énorme et par des pays qui sont encore des pays industriels. Et Marseille, les égouts de Marseille sont encore presque à l'air libre.
Voilà, petit point donc sur ces bouts rouges d'Alteo. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un tour maintenant du côté du département de l'Hérault. On va retrouver donc un homme, Michel Galabru, qui est né au Maroc. Et oui, tu vois. Et moi, je l'ai rencontré une quinzaine d'années, et je lui ai fait ouvrir ses cartes routières. Vous savez, cette façon d'interviewer donc les gens. Et voilà. Et donc, on est parti sur l'Hérault, pays de son enfance.
Je dis toujours, quand on me demande d'où êtes-vous, je dis toujours Béziers, parce que c'est la ville qui est connue, ou Montpellier, qui est à 80 km de là. Et je dis Lodève, parce que quelquefois, l'œil s'éclaire. Mais si je dis le Bousquet d'Orbe, alors là, je vois que les personnes ne savent ce que c'est.
Et si on parle des monts de l'Espinouse, peut-être encore moins.
Bon, si, ça, tout ça. Alors ça, c'est ma région. C'est la région de ma famille. Alors, du Bousquet, nous montons jusqu'à Avesnes-les-Bains. Ah. Avesnes-les-Bains, où mon père... Il y a beaucoup de galabrus à Avesnes, et qui ne sont pas parents avec moi, des galabrans. Une fois, comme ça, j'étais dans le truc, je cherchais des champignons. Il y a une fermière qui est venue dans une espèce de petit hameau, qui m'a dit, mon petit va vous montrer où ils sont. Alors, je lui ai dit, comment s'appelle votre petit? Et elle m'a dit, il s'appelle Michel Galabru. Vous voyez, je crois que c'est un nid. Un nid de ces galabrus, qui, en patois, voudrait dire Gal, le coq, Abrial d'avril. Galabru, le coq d'avril. C'est une réputation difficile à tenir, évidemment.
Vous vous sentez pas mal, quand même.
Autre chose.
Alors, Michel Galabru, est-ce que vous êtes vraiment un homme de cartes? Est-ce que les mots vous inspirent? Est-ce que vous orientez avec?
C'est-à-dire que j'ai une nostalgie de la campagne. Vous voyez, quand j'ai été admis à la Comédie Française, j'ai quitté ma mère et j'ai quitté Avesnes. Et je devais rentrer au mois de septembre parce que je faisais l'ouverture à la Comédie Française. Et je me rappelle d'un immense cafard qui m'a pris dans ma loge. Pourtant, c'était une très belle loge au-dessus du Palais Royal. J'ai ouvert ma fenêtre, c'était l'été. Septembre, c'était l'été. Et j'ai presque pleuré de nostalgie. Ma mère avait pleuré en me quittant aussi. Et je m'étais consolé en me disant, mais... Il y a la Seine comme fleuve, tu pourras aller pêcher là. Moi j'y ai pêché depuis mon enfance, je vais à Avesnes et puis j'y pêche des truites. Vous avez des champignons, vous avez même des truffes. Vous avez puis du gibier dans les montagnes, les petites montagnes qui sont autour. Ça a été un véritable paradis. Et maintenant, c'est ça, jamais sans nostalgie. Et alors, Madame Pégurier, qui est d'Avesnes, là, qui était l'hôtelière, alors elle m'envoyait pour me calmer. Ça, c'est extraordinaire. Elle était intelligente, cette femme. Elle comprenait ce qui me manquait. Elle m'envoyait dans des enveloppes des ronces. Vous vous rendez compte? Des ronces.
En général, on envoie un brin d'herbe ou une fleur séchée,
voilà,
mais elle, c'est carrément des ronces.
Carrément des ronces pour me faire, parce qu'il y a beaucoup de murs là-bas, pour me faire rêver, là. Elle savait que je rêvais là-dessus.
C'était le petit besoin de nature de Michel Galabru. Je vous en fais pas un écologiste convaincu, hein. Non, pas du tout, mais il avait besoin. Et alors, Frédéric Noé, le chic que vous êtes, vous lui êtes extrêmement reconnaissant.
Oui, c'est le Nord.
Voilà.
Ça, c'est pour
1 minute 10, 1 minute 15 dans ce film.
Et ça bouleverse.
Et évidemment, ça bouleverse. Dis donc, ce qui bouleverse aussi, on va continuer un petit peu nos voeux, mais enquête d'utilité publique, parce qu'il y a une dame qui nous avait gentiment engueulé en disant, mais attendez, vous avez dit que ça se passait donc après les décisions. Bon, alors, une enquête d'utilité publique d'une façon générale, là, on en parle d'un point de vue écologique, ça se passe quand et la décision se prend quand et à quoi ça sert?
Alors, notre chère auditrice avait tort parce qu'elle avait raison. L'enquête publique se fait avant la prise de décision, mais elle se fait au dernier moment quand le projet a déjà été ficelé et le ficellement de ce projet n'a nécessité aucune enquête, aucun appel au public. Donc, le public est consulté une fois que le projet est déjà fait, sur 15 jours, et comme le projet est déjà fait, il est remis tel qu'il est au public, qui n'y comprend rien, ni vous ni moi n'y comprendrions quelque chose, et donc personne n'y assiste, personne n'y comprend rien. In fine, l'enquête publique ne sert à rien, raison pour laquelle la plupart des ONG demandent à ce que l'enquête publique se fasse en amont des projets, en amont, pas en aval. C'est-à-dire, pour reprendre Notre-Dame-des-Landes, l'enquête publique, c'est pas maintenant. Il fallait la faire il y a 40 ans. C'est pas maintenant. Voilà.
D'accord. Donc c'est une loi de 76. Donc c'est un peu une caution.
C'est la loi. C'est une caution. C'est une obligation dite de démocratie locale, sauf que c'est du pipeau.
Bon, très bien. Voilà. Moi, ça c'est fait. On va retrouver François Moutou. Alors François Moutou, c'est un vétérinaire, un épidémiologiste, quelqu'un qui aime beaucoup les animaux et la faune sauvage. On va avec vous, François Moutou. D'abord, bonjour à vous. Et puis, quelques vœux quand même pour cette nature et cette faune.
Bonjour Denis. Bon, alors effectivement, ce début d'année 2016, ce qu'on pourrait espérer, c'est que, alors qu'on a quand même beaucoup d'informations aujourd'hui sur toutes ces espèces, sur leurs relations, sur ce dont elles ont besoin, on continue à ignorer complètement ces besoins pour aller toujours au plus rapide, au plus court, en ne pensant qu'à notre espèce.
C'est-à-dire qu'en général, on supprime, on fait quoi ? On assèche,
voilà,
on zigouille.
Il y a une difficulté parce qu'il y a des animaux sauvages qui viennent dans ma plantation, j'extermine les animaux sauvages. Il y a des prédateurs qui mangent quelques-unes de mes bestioles, j'extermine les prédateurs. Est-ce qu'il y a des clôtures ? Est-ce que j'ai planté ce qu'il fallait au bon endroit ? Est-ce qu'il y a une autre façon de gérer l'espace, de gérer la cohabitation ? C'est pas ça qu'on se pose comme question, on va toujours plus rapide, parce qu'on a l'impression que de cette façon-là, on aura réglé le problème pour toujours. On a besoin de développer de la tolérance, on a besoin de développer des qualités humaines pour cohabiter, et ces qualités-là, on peut les apprendre en essayant de vivre avec d'autres espèces que la nôtre.
Alors, François Moutou, donc à partir de là, la place du sauvage aujourd'hui, qui quand même embête beaucoup de gens. Mais au-delà de ça, c'est notre rapport à la fois au territoire et notre rapport au sauvage qui est profondément bouleversé.
Quelque chose qui est très curieux justement parce qu'on a perdu le contact avec la nature, c'est que quand on voit de chez soi un animal sauvage, pour la plupart des gens, ça devient inhabituel, donc ça devient anormal, donc ça devient peut-être dangereux, donc il faut faire quelque chose, c'est-à-dire le supprimer. On n'a plus l'habitude du tout même de voir un animal sauvage. Et le sauvage doit être sauvage dans tous les sens du terme, donc fuir l'espèce humaine. Et donc on n'imagine pas que des animaux qui ne sont pas chassés, à qui on ne fait rien, puissent vraiment venir habiter à côté de nous, faire leurs affaires tranquilles entre eux, sans forcément d'ailleurs interférer avec nous. Mais le fait de les voir devient tellement surprenant que c'est forcément anormal et qu'il faut donc intervenir. Et c'est ça qui est très curieux. On a vraiment oublié qu'on pouvait vivre les uns à côté des autres, sans forcément faire des choses ensemble, mais simplement voilà, en partageant l'espace, le moment, le même soleil, les mêmes prairies, les mêmes forêts. On ne sait plus le faire.
Alors François Moutou, parlons aussi d'un animal là, de manière assez positive, c'est le tigre de Russie. Il semblerait que notre tigre aille un peu mieux.
Alors le tigre est une espèce extraordinaire que tout le monde connaît, mais le fait de la connaître ne lui apporte pas forcément beaucoup de sérénité. Et les populations à l'ouest, côté Inde, sont en difficulté, même si ça va un peu mieux. Et il y a quand même une volonté de faire quelque chose dans ce grand pays. Et à l'est, où les tigres habitent dans la neige, dans des paysages extraordinaires, donc de l'extrême-orient russe, les nouvelles les plus récentes sont plutôt optimistes. Donc la population aurait augmenté en effectif. On est passé à 500, 600 peut-être un peu plus. Et la population a gagné également en surface, en réapparaissant dans des endroits d'où elle avait disparu. Il commence à repointer son museau côté chinois, où c'était quand même pas du tout gagné. Il y a même des échos comme quoi il y aurait quelques tigres en Corée du Nord. Alors là, étudier, très compliqué. Mais en tout cas, c'est plutôt bon signe, sachant que apparemment, les trois pays concernés semble d'accord pour coopérer le mieux possible dans l'intérêt de cet animal. Il revient un peu vers l'est de la Mongolie. Et cette espèce, qui quand même est une des espèces les plus connues, qui est plus nombreuse aujourd'hui en captivité qu'en nature, les gens les élèvent pour des raisons pas toujours glorieuses d'ailleurs, eh bien là où on la laisse tranquille, et c'est souvent la première des choses à faire, on les laisse tranquilles, eh bien elle va un peu mieux.
François Moutou, vous avez passé presque votre changement d'année sur un autre hémisphère, puisque là vous revenez de Patagonie. Qu'est-ce que vous avez vu en termes de nature là-bas ?
Des choses extraordinaires. J'ai découvert, parce que je ne l'avais pas du tout enregistré, que le grand champ de glace qu'on trouve à la frontière entre le Chili et l'Argentine, du côté du parc de Torres del Paine, par exemple, c'est la troisième réserve d'eau douce de la planète, après l'Antarctique et le Groenland. Donc il y a une réserve d'eau extraordinaire, et dans des paysages où on a l'impression d'avoir presque une, une végétation luxuriante et des glaciers derrière. Et le contraste est extraordinaire. Donc il y a des espaces gigantesques, des horizons dont on a oublié qu'ils pouvaient être aussi lointains. Et quand on lit l'histoire, on est quand même étonné d'imaginer qu'en deux siècles, on a tellement détruit, y compris des êtres humains. Je ne parle même pas de la faune. Mmh. Et comment, pour s'approprier un espace qu'on ne voulait pas partager ou plus partager ou qu'on n'a pas su partager, on a été aussi brutal avec les gens qui étaient là avant nous. Gardons une certaine diversité et sachons en faire partager les autres. Et donc, gardons l'espoir, continuons à bouger, regardons les autres. Et je pense que si on voyageait, alors bien sûr, ça a des conséquences de voyager. Ça permet de rencontrer les autres, d'aller au-devant d'eux, de leur faire confiance. Parce que si je vais chez quelqu'un dans son pays, j'ai confiance, sinon je n'irai pas. Et c'est cette confiance qui manque de plus en plus.
Vous avez donc depuis de très nombreuses années à la fois soigné et puis aussi donc défendu la cause animale. Globalement, je veux dire, que nous apprennent les animaux? Pourquoi on a besoin d'eux?
Mais moi, ce qui est extraordinaire, c'est quand on va dans ces endroits-là, mais quand on se promène en France aussi, de voir des animaux dans des endroits très différents, parfois des espèces qui se ressemblent d'un continent à l'autre alors qu'elles n'ont aucun point commun, mais simplement dans les mêmes milieux, la solution de vie qu'elles ont trouvée fait qu'elles ont des morphologies qui leur ressemblent. Ou bien des animaux qui habitent au même endroit, qui se ressemblent beaucoup, beaucoup, mais qui ont quand même deux façons différentes de vivre, des écologies différentes. Comment elles ont compris qu'il fallait, qu'on pouvait, enfin, compris, comment les différences se sont imposées dans une population par rapport à l'autre, comment les individus ont transmis ça à leur descendance pour ne pas se marcher trop sur les pieds les uns des autres. Alors, parfois, le monde animal n'est pas forcément parfait, il y a parfois des choses cruelles qui s'y passent, mais la vie qui est exprimé par ces animaux, est toujours une source de réflexion et de leçons pour vivre et pour survivre, pour être et pour aller au-delà de l'être. Et dans toutes les régions du monde, si on regardait les animaux un peu plus, et les plantes également, là où elles poussent, là où elles ont grandi, là où elles ont fait des forêts ou de la prairie ou de la steppe, on a des leçons à apprendre pour savoir comment vivre, et vivre mieux ensemble.
Et puis bien sûr, les animaux nous humanisent, mais ça, c'est tout un débat très intéressant. Merci à vous, François Moutou. Petite précision, oui. Frédéric Danet, c'est vrai que là, nous avons parlé du tigre de Russie. Soyons précis, c'est le tigre de Sibérie.
Le tigre de Sibérie, Panthera tigris altaïca. Son autre nom, c'est le tigre de l'amour.
Mais oui.
Du fleuve, amour.
Du fleuve, mais je ne m'emballe pas du tout. Il est 14h37, tout va bien. Vous êtes bien sur France Inter, c'est CO2 Mon Amour. Et il y a aussi, évidemment, de la musique qui a une part importante. Thierry Dupin nous a choisi ce disque.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessou sur France Inter.
À sa façon de nous appeler ses gosses, voyez bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les cours, on allait boire un verre. Quand on entrait, l'orette souriait. Et d'un seul coup, nos leçons, nos problèmes disparaissaient quand elle nous embrassait. C'était bien chez l'orette. Quand on faisait la fête, elle venait vers nous, Lorette. C'était bien, c'était chouette. Quand on était fauchés, elle payait pour nous, Lorette. Et plus encore, afin qu'on soit tranquille, dans son café, il y avait un coin pour nous. On s'y mettait pour voir passer les filles, et j'en connais qui nous plaisaient beaucoup.
Si par hasard, on avait l'âme en peine, Lorette seule savait nous consoler. Elle nous parlait, et l'on riait quand même. En un clin d'œil, elle pouvait tout changer.
C'était bien chez Lorette, on y retournera pour ne pas l'oublier, Lorette. sera bien, ce sera chouette. Et l'on reparlera des histoires du passé chez l'oreille. Ce sera bien, ce sera chouette. Et l'on parlera des histoires du passé chez l'oreille.
Avec Benabar, bien sûr, Delpech chez Lorette. C'est au de mon amour, Frédéric Noé, là aussi, 2016, actualité. L'éco-PTZ, l'éco-prêt à taux zéro, que peut-on donc enduire ? Qui n'est pas un crédit d'impôt.
Non, il y a le crédit d'impôt et l'éco-prêt à taux zéro qui a été prorogé, prolongé jusqu'au 31 décembre 2018. Et le crédit d'impôt a aussi été prolongé jusqu'au 31 décembre 2016. L'éco-prêt à taux zéro, comme son nom l'indique, mais on a tendance à l'oublier, c'est un prêt bancaire pour lequel vous ne contractez pas d'intérêt. Un prêt de 30 000 euros maximum, c'est entre 20 000 et 30 000 euros, que vous vous engagez à rembourser sur 10 ans. Mmh. Et la petite nouveauté, c'est que si vous n'avez pas tout dépensé, vous pouvez dépenser le reste sur 3 ans. On peut le faire en 2 fois. Ça s'applique comme le crédit d'impôt sur des équipements de moindre consommation énergétique, par exemple les chaudières haute performance énergétique. Ça s'applique aussi sur le traitement récupération des eaux pluviales, sur les chargeurs pour véhicules électriques dans les garages. Voilà, ça s'applique à beaucoup de choses.
Il faut qu'il y ait un bouquet de travaux avec 2 ou 3 travaux.
Oui, ça c'est pour l'éco-prêt à taux zéro. Pour le crédit d'impôt, c'est un peu plus simple. Alors le crédit d'impôt, c'est 30% des dépenses. Si vous avez 7000 euros de dépenses, ça vous fait 2100 euros que vous déclarez, qui seront défiscalisés. 30% des dépenses jusqu'à 8 000 euros par personne, 16 000 euros pour un couple, plus 400 euros par personne à charge. Tout ça est très bien. Simplement, une précision très importante, il faut que les travaux soient faits absolument par une entreprise qualifiée, reconnue, garant de l'environnement, entreprise RGE. Il y a la liste sur l'ADEME. Les certificats, c'est Certibat, Calibat, Califélec, etc., etc. Tout est sur le site de l'ADEME et du ministère.
Un petit peu de nature, ça vous dirait ça une petite parole de très très jeune.
Parole de jeune.
Alors ça commence par le son d'un bief qui va se jeter dans une rivière, un petit pont. Voilà. Dans un grand parc-jardin qui est une petite île en fait parce que la rivière rejoint derrière. Un beau soleil. Et alors on arrive aussi sur une immense forêt de bambous. Quand je dis immense, c'est parce qu'en fait, ils font une vingtaine de mètres de hauteur, à peu près. Alors, Cathy, vous élevez pas des pandas, là ?
Non, on n'élève pas de pandas. Il y a de quoi les nourrir, mais ils se plairaient pas dans ce climat-là.
Non, je crois pas. Non, je crois pas. Alors, Zoé,
pourquoi ça te plaît, ce lieu ?
Parce que c'est agréable d'être près de l'eau. En plus, c'est un endroit calme.
Ouais.
On est en forêt, donc il n'y a pas tellement de voitures non plus. C'est ça qui est bien.
Et alors Cathy, il y a en fait des mobiles que vous avez installés là sur votre petite île qui rappellent la nature en permanence, hein, que ce soit des petits mammifères, un pot de lait. Ah oui.
La grenouille. Ah oui, elle a perdu son pied, regarde. Bon, on va lui remettre, tiens, il est là.
Voilà. Ah,
on va faire une opération.
Oui.
Le sauvetage.
Sauvetage, ça fait du bricolage, mais ça doit fonctionner, quoi.
Alors pourquoi cette nature, elle est si importante et pourquoi il faut la protéger, Zoé ?
Bah parce que sans la nature, nous, on ne serait pas là parce qu'on est des animaux. Si on prend en exemple les abeilles, il y a de moins en moins d'abeilles. Et si on n'y fait pas attention, elles vont plus être là et nous, on va plus être là.
Ouais. Les canards, regarde.
Oh.
Un col vert, un canard.
Oh, et alors là, sur la rivière, qu'est-ce qu'on voit, monsieur et madame ?
Canard,
ouais.
Il y a un col vert avec donc la femelle.
Oui.
La femelle est plutôt marron clair, beige et marron foncé, avec un peu de noir. Mais sinon, le mâle, il a la tête et le cou tout vert. Au niveau du torse, il est marron foncé. Et il est blanc sinon, et avec quelques plumes derrière, bleu, noir et gris.
Et puis il y a la rivière quand même. Donc oui, ça appelle d'autres oiseaux, ça.
Comme les martins pêcheurs ou les cinqles.
Oui, c'est très... Oh, on vient d'en entendre un.
On a des piquets-pêches, on a un couple de piquets-pêches au-dessus. Ouais. On l'entend, il est au-dessus sur le...
Tac, tac, tac.
Oui. Sur le terrain en terrasse, là.
Ça martèle. Ah, mais dis donc, il y a un chien de compétition, là aussi.
Ah oui, eh oui.
Oula.
Mademoiselle Faël, qui, heureusement, n'a pas vu les canards.
Ah, oui,
parce
bien.
Que ça, elle aime bien. Oh, si, ouais, si je crois bien. Qu'elle s'énerve. Elle a bu les... Oh là là, ça y est, les amis.
Oh, purée. D'accord.
Et voilà.
Et il décolle, ça y est. C'est un...
C'est un Westie. C'est...
Ah oui, ah oui.
Oui, donc oui, un terrier.
Ça y va, c'est dur.
Et oui, oui, oui. Ça fait beaucoup de trous. Et c'est vigile, hein, parce...
Oui.
Oui, ça y est, on est parti. Le quart d'heure de folie. Oui, regarde, ça c'est le quart d'heure de folie.
Bon. Eh ben voilà, eh ben écoutez, ça
on
va.
On risque pas de voir des chevreuils ni sangliers lorsqu'elle est avec nous. Hein.
Non, parce que
non, ils attendent qu'on soit parti pour venir boire au bief.
Ah, c'est ça. Oui, parce que t'en vois assez souvent, toi, Zoé, les chevreuils ici.
Oui. Mais pas chez ma mère, parce qu'on est dans un appartement. Mais
ah, bah oui, c'est mieux ça.
Dans le jardin de ma grand-mère, on voit vraiment que des chevreuils, il n'y a pas un seul sanglier. Les marcassins, on les voit très très rarement. Et puis, les chevreuils, on les voit souvent dans le jardin ou bien dans des champs.
Tu l'as vu, toi, le nid d'écureuil là-haut? Regarde, tout là-haut.
Ah ouais.
Ils sont plutôt dans cette partie du bois. Et on les voit danser.
Ah! Là, tu es en train de ramasser les mousses.
Là, on est devant un espèce de grand tapis de mousse.
Ah oui, oui, oui.
Qui ressemble vachement à des sapins, si on regarde bien.
Ah oui, quand on se baisse, comme c'est ça, vrai qu'on là, prend ça... une petite tige et ça fait un petit... Oui, c'est un petit sapin.
Vas-y. Ouais, ça fait des petits sapins. En fait, on a juste à peine à tirer dessus et on voit que ça ressemble vraiment à un sapin qui est dans l'eau.
Avec une belle racine, hein, qui est presque aussi grande d'ailleurs que la mousse.
Ouais. Ouais. Après, on a ces deux mousses-là, donc une qui fait un peu du lichen et une, on peut lui donner toutes les formes qu'on veut à celle-là. Donc la plus courante, en fait, on peut faire des boules, après on peut faire des boudins.
Ah oui.
Ou après, il y a du lichen qui peut pousser donc, sur les pierres, mais aussi sur des branches. Le vert, c'est quand il est tout sec, en fait, et le bleu, c'est quand il est tout frais, tout simplement.
Alors ce qui est drôlement bien, c'est qu'en fait, le lichen, c'est à la fois c'est une algue, tu vois, et puis c'est aussi un petit champignon qui est mélangé. C'est pas mal, hein, ça, comme histoire. Et de temps en temps, tu ramasses aussi des plantes?
Ce que je trouve bizarre dans le trèfle, c'est que tout le monde dit que ça porte bonheur, mais après, on ne peut pas le savoir. Oui. De toute façon, c'est des gens qui le croient, mais on ne peut pas le savoir, sinon.
Il paraît même que c'est ceux qui ont quatre feuilles.
Oui, trèfle à quatre feuilles.
Bon, dis donc, là, le chien... bah, regarde le chien, là. C'est... Hop, elle revient. Allez. Et qui t'a raconté, en fait, la nature? C'était tes parents ou c'est... comment ça s'est passé, toi?
Bah, en fait, au début, ma grand-mère aimait beaucoup la nature. Elle passait souvent son temps à regarder les oiseaux ou bien les sangliers, les chevreuils. Tout ce qu'on voit chez elle, donc... Et elle a toujours habité en forêt. Et puis, elle montrait des animaux. Et moi, je trouve que c'est assez sympa. Et c'est magnifique. Moi, ça me semble important de la protéger de toute façon. Parce que... Tout simplement parce que sans elle, nous, on n'est pas là.
C'était le portrait d'une petite Zoé qui a 8 ans, qui aime les crêpes, faire du poney. Elle aime sa grand-mère, ses parents et la nature. Alors où étions-nous? On était en Dordogne, dans le Périgord vert à Nontron. Nous étions dans le très grand parc avec un bief très joli de Cathy et d'Erwane Carabin au boulin de Masvicomto, donc à Nontron. On s'est dit que ce portrait de cette petite Zoé qui avait été tournée au printemps nous ferait du bien en ce début quelques années. Ce qui nous fait du bien aussi, ça va être de retrouver Pierre Rabhi. Donc Pierre, on a commencé cette émission avec vous, on va la terminer aussi avec vous, parce qu'il y a donc le travail, on va dire, intérieur, il y a l'insurrection des consciences, comme vous dites, et puis il y a l'organisation économique, financière, politique que nous connaissons, que nous laissons d'ailleurs plus ou moins aux décideurs de tout poil. Alors bon, c'est vrai que vous évoquez, Jean-Marie Pelt aussi le faisait, donc la civilisation de l'amour, certes c'est encore un très beau slogan. Aujourd'hui c'est un peu celle quand même des marchés et de la foi dans la science qui sauvera l'homme. Alors Pierre, à travers vos lunettes, comment voyez-vous, vous, ce monde évoluer?
Disons que de plus en plus on fulmine contre les multinationales, par exemple, en disant qu'ils prennent un pouvoir illicite oui. sur la vie, etc. Sauf qu'il y a des brigades de pousseurs de caddies qui leur donnent leur sou. Je veux dire, nous participons à leur enrichissement, à leur devenir, etc. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans l'immodération et que les esprits exacerbés et qui veulent accumuler de plus en plus de lucre, eh bien, eux savent manipuler l'être humain de façon à que cet être humain ne soit jamais dans la société, il ne soit jamais satisfait. Donc c'est toujours ce qui nous manque, même quand on a l'essentiel, c'est-à-dire que nous mangeons à notre faim, nous sommes vêtus, eh bien, qu'est-ce qui est stimulé en permanence, c'est on n'a pas assez, on n'a jamais assez. Qui fait que la joie n'est jamais là, et qu'il paraît que les statistiques de consommation des anxiolytiques sont en train d'exploser.
Oui.
Mais c'est-à-dire qu'on recherche par l'artifice une joie que nous devrions avoir par la réalité vivante, par la nature et par notre réalité. Et bien, ça veut dire que c'est une civilisation totalement en échec, puisqu'elle produit beaucoup plus de détresse qu'elle ne produit de joie.
D'où effectivement la sobriété heureuse que vous prenez déjà depuis un certain temps, mais qui n'est quand même pas donnée à tout le monde, puisque comme vous l'avez très bien dit, on a confondu évidemment le bonheur personnel avec maximisation du profit et avec la consommation qui est derrière. Indignation constructive, sobriété heureuse. Alors en même temps, comment sortir, on va dire, d'une planète qui est polluable et corvéable à merci, alors qu'il y a un moment, on voit très bien que les choses vont arriver donc au taquet. On voit aussi quand même beaucoup d'actions qui sont là déjà et qui viennent du bas pour remonter vers le haut.
Alors il faut faire très attention à l'effet de loupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si soit nous prenons l'aventure occidentale dans le modèle qu'elle a proposé, et ce modèle triomphant, mais il a été triomphant quand même sur la confiscation des territoires d'un nombre incroyable de peuples.
Oui.
Donc c'est ce qu'on appelle la colonisation. Je pense que l'Europe aurait été réduite uniquement aux biens qu'elle possède, elle serait probablement le continent le plus pauvre de la planète. Donc elle a eu de l'imagination, elle a migré, elle a accaparé des terres et les ressources. Elle a créé un modèle qu'elle a dopé avec les ressources extérieures, parce que c'est certainement pas que les ressources. L'Europe a amené l'imagination et la créativité, mais elle a amené les ressources, elle est très pauvre en ressources. Donc on a érigé un modèle triomphant, on prétend qu'il est généralisable. Et là, c'est une erreur monstrueuse, parce qu'on ne peut pas généraliser ce modèle-là, puisqu'il est boulimique. Donc si les Chinois, tout le monde, et d'ailleurs c'est ce qui risque de faire un clash planétaire aujourd'hui, c'est que les gens n'analysent pas le fait que c'est un modèle dopé artificiellement et que ce modèle-là n'est absolument pas généralisable. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que quand j'ai demandé à mon ami Ziegler quelle était la condition de la faim dans le monde, etc., et il m'a dit « toutes les 7 secondes, un enfant meurt de faim ». Voilà. Donc il faut aussi ne pas croire que nous sommes arrivés quand un seul être humain sur cette planète et dans la détresse, ça nous concerne.
Pierre, bon, on sait qu'aujourd'hui, seule la nature recèle les moyens d'assurer la condition de notre existence. Voyons quand même les ferments qui sont positifs aujourd'hui.
Eh bien, je ferai une distinction entre la politique, qui me semble faire de l'acharnement sur un modèle moribond. Alors, c'est pour ça qu'on voit, moi je ne juge pas les politiciens, ce sont eux qui doivent se juger eux-mêmes et s'évaluer en conscience. Est-ce qu'ils sont là pour le bien ou est-ce qu'ils sont là pour la vanité? Ça, c'est à eux de le voir. Mais par ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de dire que la politique a comme credo permanent la croissance, la croissance, la croissance, parce que c'est avec la croissance qui serait salvatrice. Et c'est une énorme erreur. Par contre, ce qui se passe de plus en plus et qui est assez merveilleux, C'est une réaction de la société civile qui invente de plus en plus, qui innove de plus en plus. Et tous les domaines aujourd'hui sont de la société civile, sont investis par la société civile qui propose des solutions. En termes d'agriculture, c'est mon dada personnel.
Avec l'agroécologie, bien sûr.
Voilà, pourquoi massacrer les sols, les terres, empoisonner tout, alors que l'agroécologie est une solution merveilleuse. Aujourd'hui, il y a un drame terrifiant, c'est que les semences qui sont indispensables à notre survie...
60% de ces semences ont déjà disparu.
Ah oui, et on me dit même 75%. Oui. Donc on essaye, nous, de notre côté, de faire autre chose. On va d'ailleurs publier bientôt un livret sur cette question. Vous avez... Alors, il y a la partie positive aujourd'hui, c'est que ce que je ressens très fort, c'est qu'une nouvelle conscience est en train d'émerger. Et ça veut dire quoi, une nouvelle conscience? Elle se situe dans le fait qu'il faut que nous prenions conscience de notre inconscience. Et c'est cette conscience qui nous fait prendre conscience de notre inconscience qui est en train aujourd'hui d'émerger. Et celle-là, elle est créative. Donc nous ne sommes pas sans solution, mais cette solution ne peut pas s'exercer s'il n'y a pas un préalable, celui d'accepter la simplicité, la sobriété. Si on n'accepte pas cette sobriété et qu'on est toujours dans toujours plus indéfini, ça ne peut pas se réaliser.
Merci beaucoup, cher Pierre, et puis on vous souhaite le meilleur. On vous souhaite de vous ménager aussi, Pierre Rabhi. Hein.
Merci beaucoup, Denis. Merci infiniment.
Oui, parce qu'il y a quand même pas mal de demandes. Hein. Il me disait plus de 350 demandes d'intervention par an. Ça fait un petit peu beaucoup quand même du côté de 77 ans. Quand même, cher Pierre Rabhi, on tient à vous. Cher Frédéric Danvé, je sais que vous allez repartir avec votre vélo. Et donc, est-ce que vous allez avoir une indemnité kilométrique? Moi, je n'ai rien vous donner de plus, hein, soyez dans le truc là. Mais l'indemnité kilométrique en 2016, ça c'est intéressant, 25, c'est aussi une nouveauté.
Oui, c'est une nouveauté. Alors, je préférais une indemnité trottinette, car moi c'est plutôt la trottinette.
Oui, c'est vrai que vous avez
bon, bref, 25 centimes par kilomètre.
Oui.
Au maximum 200 km par an, c'est-à-dire qu'il faut supposer que les travailleurs qui viennent en vélo ne feront que 4 km par jour. Or, en moyenne, les gens qui utilisent leur vélo pour aller au travail font 7 km. C'est déjà pas mal. Je rappelle juste ce chiffre, 25 centimes par kilomètre. L'indemnité kilométrique, hein, qui, quand vous déclarez vos frais de voiture sur les impôts, si pour une 5 chevaux par exemple, c'est entre 36 et 54 centimes du kilomètre.
Ah oui, donc la voiture est quand même... toujours un peu favorisé.
Elle est toujours un peu favorisée, voilà, subventionnée par le contribuable, beaucoup plus que l'indemnité kilométrique. Mais bon, voilà, c'est déjà pas si mal, on va pas râler.
Bien, juste un tout petit mot aussi sur les 30 ans de la loi Littoral. C'était en 1986. Entre autres, et c'est extrêmement important, on ne pouvait pas construire sur une bande de 100 mètres à partir du rivage et ne pas urbaniser dans la continuité du bâti.
Et c'est toute la question, la continuité du bâti. Qu'est-ce que c'est? Le Conseil d'État dit une chose très simple, mais vous allez voir, hein, on ne peut pas construire en continuité avec d'autres dans les zones d'urbanisation diffuses et éloignées de ces agglomérations et villages. Qu'est-ce qu'une urbanisation diffuse? On ne sait pas. C'est toujours sujet à procès, à réclamation, mais heureusement qu'elle est là, la loi.
Merci beaucoup Frédéric Danvé, vous reviendrez dans cette émission pour cette actualité. À la technique, il y avait Gilles Gaillard et Philippe Duclos. Merci à Claire Destacan, à Xavier Pestugia qui a réalisé l'émission. Anne Gouzon qui nourrit les sites. Alors vous n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez laisser des messages, vous en avez laissé de très nombreux. Après la disparition donc de Jean-Marie Pelt, je ne peux pas répondre à tous. J'avoue que là je suis un peu sous l'eau, mais en tout cas ça nous touche et ça me touche beaucoup. Semaine prochaine, parole de chercheur avec un scientifique qui a découvert des tas de choses sur la sécheresse des arbres. On parlera aussi des loups, donc sujet toujours polémique. Curieux de nature, 7h55 avec Alain Bougrain-Dubourg chez Patricia Martin, ce sera donc demain. Vos appels 01 56 40 40 35, le podcast à votre disposition, vous en avez bien sûr l'habitude pour réécouter cette émission, ainsi que cette nuit, une petite insomnie, entre 4h et 5h du matin, vous aurez aussi donc CO2 Mon Amour et La Tulu Mon Petit Loup, ce sera demain à 19h54 après Les Petits Bateaux. Très bon week-end à tous.